Merci Seigneur,
Alléluia.
Parce que ta parole est la vérité.
Amen.
Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit.
Amen.
Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point. Nous pouvons, Seigneur, nous confier en ta parole. Elle est la vérité. Et tu as dit toi-même, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Seigneur, merci. Merci pour la vérité qui nous a rendus libres. Merci pour ces moments que tu nous accordes dans ta présence. Seigneur, c'est ta présence qu'il nous faut par-dessus tout. Ta parole nous dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais bienheureux est l'homme qui se confie en l'Éternel. Seigneur, nous sommes venus non pour nous confier en un homme ou en des hommes, mais nous sommes venus pour nous attendre à toi, notre Seigneur et notre Dieu, notre Rédempteur, toi qui as payé notre dette sur la croix du calvaire. Oui, c'est à toi que nous venons, maintenant et pour cette convention. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains et cette réunion, et toutes les réunions pendant ce week-end, c'est nous nous attendons à toi et à toi seul. Tu connais les désirs, tu connais les aspirations, tu connais aussi les souffrances cachées, tu connais les pleurs et les larmes, tu connais les déceptions, mais tu es venu pour nous délivrer. Tu es venu pour nous faire du bien. Comme autrefois, tu allais de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec toi. Ô Seigneur, nous t'aimons. Je t'aime et je t'adore. Tu diriges cette réunion maintenant. Tu inspires les paroles que je dois dire. Non ce que j'ai préparé, Seigneur, mais ce que tu as préparé dans ton amour. Merci. Merci pour ta grâce et pour ce que tu fais déjà maintenant au milieu de nous. Car ton esprit est déjà à l'œuvre. Et déjà, tu agis au milieu de nous. Merci, Seigneur, car ton amour ne peut attendre. Ton amour est déjà agissant. Alléluia. Nos cœurs sont ouverts et t'adorent. Béni sois-tu éternellement. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est bon de passer du temps dans sa présence, de rechercher sa présence, car il nous faut réaliser une chose, c'est que sans lui, vous ne pouvez rien faire et je ne peux rien faire. Il est donc vital de nous approcher de lui, n'est-ce pas vrai ? Vital, vital. Aucun regard doit être sur un homme, sur l'un ou sur l'autre. Non, mes chers amis. Combien de fois vous avez été déçus parce que vous avez regardé à l'un et à l'autre, n'est-ce pas vrai? Combien de fois moi-même j'ai été déçu? Combien de fois? Et je suis rentré triste à la maison. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? La réponse était toute simple. Je regardais plutôt un homme qu'au Seigneur. Et si nous savons regarder au Seigneur, mes chers amis, Dieu est un Dieu extraordinaire. et il fera tout pour vous donner ce dont vous avez besoin. Amen. Il fera tout. Dieu est infiniment sage, infiniment puissant. Il a des moyens extraordinaires et insoupçonnés pour toucher nos cœurs si nous savons nous attendre à lui et à lui seul. Amen. Amen. Alléluia. Pour cette première réunion, j'ai pensé que il fallait que le chrétien, comme l'apôtre Paul, ait une vision céleste des choses. Vous savez que l'apôtre, lorsqu'il a comparu devant des empereurs, des princes, il s'écriait devant eux, « Je n'ai pu résister à la vision céleste. » Bien sûr, l'apôtre a vu le Christ ressuscité. Mais à côté de cette vision du Christ ressuscité, il a aussi vu autre chose. Il a vu qui était Christ, mais il a vu aussi qui nous sommes en Christ. Amen. Ça, c'est un point important. Et j'aimerais lire quelques versets avec vous maintenant dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, les versets 12, 13 et 14. 1 Corinthiens, 1 épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 12, 13 et 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Pour que l'apôtre Paul dise cela, il fallait qu'il ait une vision céleste de ce que Dieu a fait de nous en Christ. La chose la plus importante ici-bas, ce n'est jamais ce que je pense de vous, ce que vous pensez de moi, ce qu'un autre peut penser de vous. Ce qu'un homme peut penser d'un autre homme n'est jamais la vision réelle et authentique. Ce qui est important et qui libère vraiment, c'est la vision que Dieu a de nous en tant que chrétiens. Et j'aimerais vous donner les 4 visions de la victoire. C'était le moment de dire Alléluia. Les 4 visions de la victoire. Vous savez, quand Paul utilise le verbe et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le mot transporté dans le texte grec veut dire transporté d'un lieu à un autre. Et du temps de la Bible, vous le savez comme moi, lorsque un peuple avait vaincu un autre peuple, qu'est-ce qu'on faisait du peuple vaincu? On transportait le peuple vaincu dans le lieu du peuple vainqueur. Il était littéralement transporté dans le lieu du peuple vainqueur. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire ici. Et pour cela, il a dû monter dans une fusée et être sur l'orbite divine. Amen. Et dans cette fusée-là, il y a 4 étages qui sont les 4 visions de la victoire. Nous avons été transportés d'un lieu à un autre, transportés de cette terre dans les lieux célestes. Et quelle est donc la première vision que nous devons avoir? L'apôtre dit au début ici, au verset 12, « Rendez grâce au Père ». Ça commence par cela. La première vision que nous devons avoir, nous devons avoir un cœur reconnaissant. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Vous savez, c'est là qu'il y a le combustible, enfin, toute la puissance de cette machine, n'est-ce pas vrai? Et si là, il y a pas assez de puissance, alors la fusée n'arrive pas à monter. Ou alors, si elle monte un petit peu, 100 mètres plus loin, pouf, elle pique du nez. Ou 1 kilomètre plus loin, ou 10 kilomètres plus loin, ça pique du nez. Comme la fusée Ariane, ça lui est arrivé, cela. Alors, beaucoup de chrétiens sont un peu comme cela. Ça monte quelques mètres, quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, et puis ça pique du nez. Pourquoi? Parce que pendant une convention, on vous met un peu dans la fusée. Vous êtes comme introduit dans la fusée, vous dites, voilà, qu'est-ce que ça? Dès la première réunion, déjà, ça chauffe ici dedans. C'est bien que ça chauffe. C'est qu'il y a du combustible. Et ce combustible, c'est un cœur reconnaissant, un cœur rempli de louanges. Voyez-vous, la vision du chrétien victorieux, c'est d'abord un chrétien qui rend grâce à Dieu. Quand nous rendons grâce à Dieu, c'est que nous possédons déjà quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Nous ne pouvons pas rendre grâce à Dieu pour des choses que nous ne possédons pas. Et en Christ, nous dit la Bible, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions. Et Dieu nous a bénis de tant de façons. Simplement que vous soyez enfants de Dieu, nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, régénéré par le Saint-Esprit, ça, c'est le plus grand des miracles. Amen. C'est le plus grand cadeau que Dieu puisse faire à un homme, à une femme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et l'apôtre Paul a vu beaucoup de choses. Non seulement il nous a donné la régénération, la nouvelle naissance, il nous a donné sa parole, il nous a donné son esprit, il nous a donné son nom, il nous a donné son autorité, il nous a donné ses dons spirituels, il nous a donné tant de choses, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi, si nous voulons monter dans notre vie spirituelle et ne pas piquer du nez 15 jours ou 15 mois plus tard, il nous faut avoir ce cœur reconnaissant. Si vous lisez l'épître aux Colossiens, en tout cas à 6 reprises, l'apôtre dit d'être reconnaissant, d'abonder en actions de grâce, d'être reconnaissant, de persévérer dans la prière et d'y veiller avec action de grâce. Continuellement, l'apôtre était un homme qui savait rendre grâce. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont perdu cette vision-là, qui est une vision céleste. Ne l'oubliez pas. Car la vision de ce monde n'est pas de rendre grâce, n'est jamais de rendre grâce. Avez-vous déjà vu des hommes dans ce monde rendre grâce et dire « c'est formidable tout ce que j'ai »? Oh, mais c'est extraordinaire tout ce que j'ai, je suis satisfait. Avez-vous vu cela dans le monde? Jamais. Plus on a, plus on réclame, n'est-ce pas vrai? Et il ne faut surtout pas dire qu'on est satisfait, parce qu'on n'aurait plus rien du tout. Avec toutes ces revendications à gauche et à droite, n'est-ce pas vrai? Ah, il faut toujours demander, toujours, toujours, toujours. Je veux bien que certaines revendications sont légitimes, bien sûr. Mais entre cela et lorsque nous sommes exaucés dans nos revendications et que nous en sommes toujours au même point, alors qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire que finalement, Rien de ce qui est dans ce monde ne pourra pleinement nous satisfaire que ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. C'est pourquoi un chrétien doit veiller à cela. Vous savez, on le remarque facilement. Si un chrétien a cette vision, la vision de rendre grâce à Dieu, d'être un chrétien reconnaissant. Êtes-vous un chrétien reconnaissant? Êtes-vous plein de gratitude à l'égard du Seigneur pour ce qu'il vous a déjà donné? Vous savez que l'ingratitude est un péché. Nous pensons que tuer, voler, commettre adultère, c'est un péché, mais la Bible nous dit que l'ingratitude est un péché. Vous vous souvenez les malades que Jésus avait guéris, ces lépreux tout spécialement? Combien sont venus dire merci? Sur les 10 qui avaient été guéris, combien? Un seul. Et encore, c'était un Samaritain. Quelqu'un qui n'était pas considéré des autres, qui était rejeté par les autres. Et Jésus a dit, et les autres, où sont-ils? Voyez-vous que le Seigneur attendait de ceux qui ont été guéris, il attendait une reconnaissance. Et combien de fois nous perdons cette vision-là? Et si nous perdons cette vision, si nous commençons continuellement à murmurer, naturellement, il y en a qui ont la vision du murmure continuellement. Ah, cette vision-là, ils l'ont. Ah, ils l'ont, et puis elle est tenace dans leur cœur. Ils murmurent. C'est pourquoi ils sont toujours entre quatre murs. Ceux qui murmurent sont entre quatre murs, un mur devant et un mur derrière. Ceux qui murmurent sans mur eux-mêmes. Et voilà pourquoi ils ne sont pas mûrs spirituellement. Rendez grâce au Père. L'apôtre avait une vision céleste de ce que Dieu avait fait de lui et pour l'Église. Mes amis, le fait que nous ne rendions pas assez grâce à Dieu révèle que notre vision est limitée. Que nous ne réalisons pas tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Combien de prières au milieu de nous doivent se changer en actions de grâce et en louange? Si ces prières se changent en actions de grâce et en louange, alors vous allez commencer à chauffer un petit peu la fusée et vous allez démarrer. Alléluia!
Alléluia.
L'ingratitude est un péché, et beaucoup de chrétiens ont cela. Je lisais le témoignage, c'était en Amérique, je crois, le jour de Noël, comme le jour de Noël arrive bientôt, paraît-il que là-bas, à la poste, beaucoup de gens envoient du courrier au Père Noël pour demander quelque chose. Et alors, des centaines de lettres, des milliers de lettres sont là pour demander quelque chose. Et à la poste, on a remarqué une chose, c'est qu'un mois après Noël, ils ne reçoivent aucune lettre de remerciement de ce qu'ils ont reçu. Seulement une carte est arrivée sur des milliers de lettres. Ceci nous montre que nous demandons beaucoup de choses, nous sommes constamment dans cet esprit-là, et voilà pourquoi nous ne sommes pas satisfait. Vous vous souvenez de l'histoire de cet homme un jour qui se plaignait toujours de ce qu'il n'avait pas de souliers. Ah, il s'en plaignait toujours. Moi, j'ai pas de souliers. Jusqu'au jour où il voit quelqu'un qui n'avait pas de souliers, mais pour cause, parce qu'il n'avait pas de pieds. Et quand il a vu cela, il a été guéri de son ingratitude. Il a dit, au moins, Seigneur, je peux te bénir pour mes pieds, pour les pieds que tu m'as donnés. Et cela l'a complètement délivré. Mes amis, Dieu peut faire des miracles dans votre vie pendant ce week-end si vous voulez vous approcher de Dieu avec des actions de grâce, même si vous ne ressentez rien du tout, ayons cette vision, elle est indispensable. Je lisais aussi le témoignage d'un militaire qui avait fait la guerre au Vietnam. Et au Vietnam, là-bas, suite à un accident, il avait perdu sa voix. De retour au pays, il était bien sûr sans voix. Et un jour, il se trouvait à l'église. Et à l'église, on était en train de lire le psaume 100, un psaume de louange, de reconnaissance et d'action de grâce. Et pendant que tout le monde lisait le psaume, lui, il a oublié tout à coup qu'il n'avait pas de voix, qu'il ne pouvait pas parler. Il s'est mis à parler avec les autres, à prononcer le psaume. Et au moment où il voulait rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde, au moment où il a fait cela, sa voix lui est revenue, il était guéri. L'action de grâce peut produire de grandes choses. C'est une vision que nous devons avoir. Lisez les épîtres de Paul. Les épîtres de la captivité, comme l'on dit. Éphésiens, Colossiens, Philippiens. Mais ce sont des épîtres où la joie déborde, où l'action de grâce déborde. Et pourtant, il est dans une prison. Nous sommes dans des palais, et ce sont les murmures qui s'élèvent. Lui, il était dans une prison, et c'était des chants de louange et de délivrance. Et pour cela, il faut se décider et dire, Seigneur, je veux être une personne reconnaissante. Amen. Voulez-vous déjà lui rendre grâce pour ce qu'il vous a donné? Voulez-vous lui être reconnaissant? Bénissez-le, louez-le de tout votre cœur, et vous verrez, il fera de grandes choses. Amen.
Amen.
Alléluia. Allons un peu plus loin maintenant. Voyons la deuxième vision de la victoire. Nous la trouvons au verset 13. Il est dit, il nous a rendu grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Avez-vous remarqué le verbe ici? Qui nous a délivrés. Non pas qui nous délivrera, mais qui nous a délivrés. C'est à quel temps, là? C'est au passé, qui nous a délivrés. C'est pas qui nous délivre. Moi, je suis pas fort en français non plus, en conjugaison, mais quand même, qui nous a délivrés. C'est au passé. Alors, la deuxième vision du chrétien, de la victoire du chrétien, est celle-ci. Nous sommes déjà délivrés de la puissance des ténèbres. Soulignez bien, déjà. Là encore, beaucoup n'arrivent pas à prendre leur envol. Ils s'élèvent bien pendant quelques mètres ou quelques kilomètres, et puis après ils retombent tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette vision que l'ennemi est déjà vaincu et que Christ à la croix les a déjà libérés. Amen. Et cela change absolument tout. Quand nous savons qu'à la croix, Christ nous a déjà délivrés, notre façon de prier change. Notre façon de louer change. Notre façon de combattre change. N'est-ce pas vrai? Tout change. C'est une vision capitale. Combien d'entre nous nous regardons nous-mêmes et vous dites, mais c'est pas possible. Vous me dites que je suis délivré de la main du diable, mais pourtant, pratiquement, c'est pas le cas. Pratiquement, je sens encore des combats. Pratiquement, j'ai encore des liens. Pratiquement, j'ai encore ceci et cela. Mais alors, pourquoi? Pourquoi? Je ne m'en sors pas. Et nous prions continuellement le Seigneur. Et qu'est-ce que nous disons? Seigneur, délivre-moi. Et bien souvent, cette prière n'est pas exaucée. Pourquoi? Parce que nous sommes en retard. Nous sommes en retard de 2000 ans sur le cadran divin. Dieu nous dit, mais mon enfant, tu me demandes de te délivrer, mais il y a 2000 ans que c'est fait. à la croix du calvaire, tu as été délivré. Alléluia. Amen. Et voilà comment on obtient sa délivrance. Mais le diable veut nous ravir cette vision. Et c'est pourquoi il y a tant de chrétiens qui sont constamment en train de chercher une délivrance, n'est-ce pas vrai? Constamment! Et on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Plus ils sont délivrés, plus ils ont besoin d'être délivrés. Regardez la contradiction. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la vision de la défaite de l'ennemi et que nous avons une fois pour toutes été délivrés de la main du diable. Amen. Lorsque nous avons cette vision-là et que nous réalisons, bien sûr qu'il peut y avoir quelque chose, mais si nous savons que nous avons été délivrés, donc aux yeux de Dieu, nous sommes quoi? Nous sommes libres. Nous sommes libres. Et voilà la vision que vous devez avoir. Voilà la vision que nous devons constamment avoir devant nos yeux. Quelle que soit votre situation, votre condition, l'ennemi, le joug de l'ennemi a déjà été brisé sur vous. Amen. Ne demandez plus à Dieu de vous délivrer de l'ennemi. Dites merci Seigneur, tu m'as déjà délivré. Alléluia! Ça, c'est une vérité importante. Mais vous dites, mais alors, si je suis délivré, eh bien, et pourquoi est-ce que j'en suis toujours au même point? Ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque Dieu dit que tu es délivré, tu l'es. Amen! Et tu dois ensuite tenir ferme contre l'ennemi qui veut te remettre de nouveau sous son joug. À la croix du calvaire, il s'est passé deux choses. Nous qui étions esclaves, nous sommes devenus libres. Et l'ennemi qui était notre maître est devenu un esclave. Et nous avons autorité sur lui. Amen. Il nous faut absolument avoir cette vision. Pourquoi est-ce que l'apôtre dit, il nous a fait part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés. Un jour, je lisais le témoignage d'un général qui avait été arrêté pendant une guerre. Et alors, on l'avait emmené dans la jungle comme cela pour le garder prisonnier. Et là, pendant des mois, il est resté prisonnier de ses ennemis. Mais la guerre s'est terminée et l'ennemi avait été vaincu. Mais le général ne le savait pas, personne n'était venu lui dire que l'ennemi qui est en train de tenir là est vaincu. Il n'a plus d'autorité sur lui. La guerre est finie, l'ennemi est vaincu et lui il est libre. Mais personne n'était venu lui dire cela. Et un jour, quelqu'un s'était faufilé dans cette jungle pour venir s'adresser à lui. Et venir pendant la nuit s'approcher de sa tente pour lui taper sur l'épaule et lui dire « Mon général, la guerre est finie. La guerre est finie. Et l'ennemi qui est autour de toi, qui te tient, il est vaincu. Ils ont perdu. C'est nous qui avons gagné. Comment? C'est vrai? Oui, oui. Mais tu sais, ça fait des mois que la guerre est finie et qu'on est vainqueur. Mais tu restes encore pendant des mois esclave de cet ennemi. C'est vrai? C'est pas possible. Mais oui, je viens te le dire. Et l'ennemi le sait, tu sais. L'ennemi le sait. Mais l'ennemi ne veut pas que toi tu le saches. Le lendemain, quand le général s'est levé, il s'est approché de ses ennemis et en criant d'une voix forte, il a dit, les autres étaient là avec leurs fusils de ZAD comme un des grands maîtres. À partir de maintenant, c'est moi qui commande ici. Toi va là-bas. Les autres, ils ont commencé à trembler. Comment? Il sait que nous sommes vaincus. Il le sait. Et ils ont baissé les armes. Ils ont commencé à obéir au général, qui lui a commencé à donner des ordres et à agir comme un homme libre et un vainqueur. Alléluia! L'ennemi est autour de toi, il rôde. Il t'a donné des ordres jusqu'à présent. Il se moque de toi. Et toi, tu lui as obéi. Tu te laisses faire.
Mais mon ami, il y a 2000 ans, quelque chose s'est passé à la croix. Quelque chose d'important s'est passé à la croix. L'ennemi ne veut pas que nous le sachions. Cette vision de notre libération de la main du diable est vitale si nous voulons une vie chrétienne victorieuse, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi il est important de se lever et dire: comment, Satan, tu m'as tenu pendant des mois? Pendant des mois, tu m'as fait croire que j'étais esclave. Pendant des mois, tu m'as fait croire que jamais je ne m'en sortirais. Pendant des mois, tu m'as fait croire que je suis perdu. Pendant des mois, tu m'as fait croire que j'étais esclave, alors qu'aux yeux de Dieu, je suis libre. Alors qu'aux yeux de Dieu, j'ai autorité sur toi. Satan, maintenant, je sais la vérité. Jésus a dit: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ne l'oubliez pas, l'ignorance nous rend esclaves. Mais c'est la vérité qui libère. Amen. Alléluia! Nous avons déjà été délivrés de la main du diable. Que faut-il faire pour être délivré? Il n'y a rien à faire. Il faut le confesser. Amen. Et résister au diable qui fuira loin de nous, loin de toi, au gloire à Dieu. Ah, j'aime ça. Amen. Est-ce que tu as déjà confessé que l'ennemi est déjà vaincu dans ta vie? Est-ce que tu as déjà dit que j'ai déjà été délivré de la main du diable? Change ta façon de prier. Elle n'est pas en harmonie avec les Écritures. L'ennemi profite de ton ignorance. Et voilà pourquoi tu ne t'en sors pas. Ou même, si ça va un jour, le lendemain ça ne va pas. Continuellement, des hauts et des bas. On a soi-disant une délivrance, mais 15 jours après, 15 mois après, on est toujours la même personne. On est littéralement esclaves du malin, de nos sentiments, des hommes. La croix est le lieu de notre délivrance. Alléluia. L'ennemi ne veut pas que nous sachions cela. La vision de ce que nous avons déjà été délivrés. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu veux la garder? Quelles que soient les circonstances, quels que soient les combats de l'ennemi, dis: Satan, j'ai été délivré. Je ne cherche pas ma délivrance, j'ai été délivré. Je suis libre. Amen. Alléluia. Et je vous assure qu'il devra se soumettre à vous. Et tôt ou tard, même s'il y a une tension sur vous, une oppression sur vous, il devra lâcher prise. Parce qu'aux yeux de Dieu, vous avez été libéré. Amen. Troisième vision de la victoire. Il est dit: il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a sortis de la puissance du diable pour nous introduire dans le royaume même de Dieu, où ce royaume est un royaume d'amour. Et la troisième vision est celle-ci, capitale, si nous voulons restez victorieux, nous sommes aimés de Dieu. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Autrement dit, dans ce royaume, nous sommes aimés de Dieu. Et ceci est plus que jamais important aujourd'hui. Cessez de croire que Dieu vous aime. Et la victoire est perdue, n'est-ce pas vrai? Romains 8, 37 nous dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Avez-vous remarqué pourquoi nous sommes plus que vainqueurs? La victoire du chrétien est liée à quoi? À l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, voyez-vous? Nous sommes vainqueurs, nous avons la certitude de vaincre. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Amen. Et cessez de croire que Dieu vous aime. Commencez à douter de son amour, comme beaucoup de chrétiens le font. Commencez à dire: oh, Dieu ne m'aime plus. Si Dieu m'aimait, eh bien, voilà, telle personne ne serait pas malade dans ma famille, telle personne ne serait pas morte, telle personne n'aurait pas eu ceci, n'aurait pas eu cela, eh bien, oh, je n'aurais pas eu ces problèmes dans mon travail. Si Dieu m'aimait, pourquoi est-ce que j'ai tous ces problèmes? Mes amis, L'amour de Dieu pour vous ne dépend pas de ces choses. L'amour de Dieu est invariable. Amen. Dieu vous aime encore, même lorsque vous pensez qu'il est contre vous. Mais Dieu n'est jamais contre vous. Amen. S'il y en a un qui est contre vous, c'est le diable, mais jamais Dieu. Et si vous croyez que Dieu est contre vous, alors l'esprit de victoire est absolument terminé. Nous nous rendons esclaves du diable car nous avons cru un mensonge. Et ça, c'est le plus grand mensonge qu'un chrétien puisse croire, que Dieu ne l'aime pas. Dieu nous aime tel que nous sommes. Amen. Tel que tu as du prix aux yeux de Dieu. Je lisais l'histoire du temps de Cyrus. Le roi Cyrus avait un général. On est décidément avec les généraux cet après-midi. Et ce général, malheureusement, avait une femme qui a trahi. Et le roi Cyrus a su cela. Et cette femme du général devait mourir, bien sûr. Et qu'a fait ce général, qui aimait beaucoup sa femme? Il est allé se mettre à genoux devant le roi et lui dire « Je veux mourir à la place de ma femme. Que ma femme soit épargnée, mais que moi, je meure. » Et quand Cyrus a vu l'amour qu'il y avait dans le cœur de cet homme pour sa femme, il a dit « Je pardonne à ta femme. Elle est libre. Tu peux rentrer avec elle à la maison, elle est libre. » Et ils sont rentrés à la maison, les bras l'un sur l'autre. Et ils étaient, bien sûr, dans une telle joie. Et le mari a dit à sa femme, « Chérie, tu as vu quand le roi, quand tu as vu les yeux du roi qui étaient pleins de compassion, quand je lui ai demandé de faire quelque chose, tu as vu les yeux du roi qui étaient pleins de compassion ?» La femme a dit, les yeux du roi? Mais moi, ça ne m'intéressait pas. C'est pas les yeux du roi qui m'ont intéressé. C'est toi. Quand j'ai vu que tu avais un tel amour pour moi, alors il n'y a rien de tel pour toucher mon cœur. C'est pas les yeux du roi qui m'ont touché. C'est tes yeux à toi. C'est ta consécration à toi, ton amour pour moi, jusqu'à la mort. Maintenant, je suis à toi et à toi pour toujours. Voilà ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel amour a-t-il eu? Il nous aime vraiment et nous sommes vraiment aimés. Amen. Croyons-le, mes chers amis. Croyons-le. Et si nous réalisons cela, c'est une vision extraordinaire. Quelqu'un peut aller partout dans ce monde. Quelqu'un peut être même rejeté dans ce monde s'il sait une chose, qu'il n'est pas rejeté par Dieu. Quand nous savons que son amour nous a acceptés pleinement, avec nos bonnes et nos mauvaises qualités, parce qu'il nous aime vraiment, si nous savons que nous sommes acceptés de lui, peu importe si les autres ne nous acceptent plus, cela n'est plus un problème pour nous. Amen. Donc, un des problèmes les plus importants de l'homme aujourd'hui est celui-ci. C'est se savoir rejeté par les autres. On fait tout pour être accepté par les autres. N'est-ce pas vrai? Tout, tout, tout. On fait tout. On cherche à être accepté. Et combien de fois on est déçu? Combien même se suicide à cause de cela? C'est quelque chose de tragique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette vision-là. La vision que si nous sommes rejetés aux yeux des hommes, que si eux ne nous acceptent point, il y en a un. Un, le véritable ami, le seul ami. Alléluia. Il nous aime et nous sommes acceptés de lui. Amen. Alléluia. Rien que cette vérité peut nous rendre libres pour l'éternité. Amen. Oh, alléluia. C'était le moment de dire alléluia. 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 Ce qui fait que peu importe si nous sommes rejetés. Bien sûr, cela nous fait de la peine, mais cela ne nous déprimera pas. Cela ne nous conduira pas dans la dépression ou au suicide. Dans le fond de notre cœur, nous pouvons dire, Seigneur, il ne m'aime pas, mais toi, tu m'aimes encore. Je n'ai pas dû prier à leurs yeux, mais j'ai dû prier à tes yeux. Et cela est la chose la plus importante. Amen. Ne doutez jamais que Dieu vous aime. Si vous dites que Dieu ne vous aime plus, c'est le plus grand mensonge que vous puissiez dire, car ce n'est pas la vérité. Et lorsque vous savez que Dieu vous aime, vous pouvez aller autour de vous et dire aussi que Dieu les aime. Amen. Car nous ne pouvons pas dire aux autres que Dieu les aime vraiment si nous ne nous sentons pas aimés nous-mêmes, n'est-ce pas vrai? Un jour, une dame travaillait dans un bureau. Elle était en train de parcourir une salle. Et tout à fait au-dessus, au premier étage, il y avait une amie qui était là, qui lui crie « Hello, il y a quelqu'un ici qui t'aime !» Elle voulait lui dire son amour, son affection. Elle était étonnée, mais qu'est-ce que c'est? D'où vient ce... Hello, il y a ici quelqu'un qui t'aime. Elle a levé les yeux et la dame lui a dit, son ami lui a dit, hello, je veux te dire une chose, je t'aime. Et puis après, elle est partie. Mais vous savez ce qui s'est passé? Elle a passé une journée absolument extraordinaire. Cette simple parole de cette dame lui a fait réaliser pendant toute cette journée et puis après, pendant longtemps, que Dieu l'aimait. Elle a passé une journée formidable où elle a pleinement réalisé l'amour de Dieu pour elle. Et c'était une journée inoubliable. Et tout cela simplement parce qu'une personne lui a dit « Hello, tu sais que je t'aime. » Et alors des miracles peuvent se passer. Et beaucoup de personnes peuvent être délivrées de leur oppression et de leur tension intérieure. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et une quatrième vision maintenant. Il est dit, et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En qui nous avons la rédemption. Que veut dire le mot rédemption? Le mot rédemption a deux sens dans le texte biblique. C'est un mot très important. C'est un mot qui veut dire racheter de l'esclavage pour appartenir à un nouveau maître. Être racheté ne veut pas dire seulement être délivré de l'esclavage, mais c'est aussi appartenir à un nouveau maître. Et la quatrième vision est celle-ci, la vision de la victoire. Nous sommes la propriété de Dieu. Amen. Alléluia. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Donc, une autre pensée importante, une autre vérité, une autre vision. Nous sommes la propriété de Dieu. Désormais, nous ne nous appartenons plus. Si nous avons compris la croix du calvaire, la seule conséquence logique est celle-ci. Ô Seigneur, devant un tel amour, je me donne à toi sans retour, dès maintenant et pour toujours. Amen. Alléluia. Le don total de soi-même. Nous sommes maintenant la propriété de Dieu. Et si nous sommes la propriété de Dieu, Dieu veille sur nous. Amen. Dieu lui-même prend soin de nous et il veillera à ce que, jour après jour, sa main protectrice soit sur nous et que sa bénédiction nous accompagne. Amen. Nous sommes la propriété de Dieu. Avez-vous fait cet échange avec le Seigneur? Non seulement vous devez donner vos péchés à Dieu, mais vous devez aussi donner votre être tout entier. Et voilà la cause de beaucoup d'échecs dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils donnent leur péché à Dieu, mais ils retiennent leur propre vie pour eux-mêmes. Et c'est pourquoi il n'y a pas de victoire. Dieu veut non seulement tes fautes, tes défauts, tes péchés, tes faiblesses, mais il te veut toi. Mon fils, nous dit la Bible, donne-moi ton cœur. Alléluia! C'est le cœur de l'homme. C'est ton cœur que Dieu veut. Il veut que tu lui appartiennes entièrement. Gloire au Seigneur. As-tu fait cet acte de foi? Si nous avons fait cet acte-là, alors la victoire est possible. Car sinon, un jour nous donnons notre vie, un jour nous la reprenons, et il n'y a pas de victoire possible. Il arrive à un moment donné dans notre vie où il y a comme une crise spirituelle, où nous disons, Seigneur, maintenant c'est terminé, j'abdique. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour toi et pour toi seul. Amen. As-tu fait cet acte de foi? Car c'est à ce moment-là que Dieu commencera à t'utiliser. C'est lorsque tu es la propriété de Dieu que Dieu pourra t'utiliser. Beaucoup disent, mais pourquoi Dieu ne m'utilise pas? Pourquoi Dieu ne peut rien faire avec moi? Et pendant des mois, des années, il pleure, il se lamente. Et il n'arrive pas à être utilisé par Dieu. Si nous allons à la racine du problème, c'est que la vie de ces personnes leur appartient encore. Ils ont bien donné leur péché, ils ont bien donné le mauvais de leur vie, mais ils ont gardé encore le meilleur pour eux-mêmes. On a demandé à Georges Müller pourquoi ce fameux homme de Dieu, Georges Müller, pourquoi est-ce que Dieu le bénissait ainsi? Il a dit un jour, j'ai dû remettre à Dieu non seulement mon péché, mais toute ma vie, ma réputation, mon honneur. J'ai dû remettre à Dieu absolument tout pour le suivre, coûte que coûte, dans la bénédiction comme dans l'humiliation. Un jour, il a eu tout de moi. Et le général Bouffe de l'armée du salut aussi, on lui a demandé, mais mon général, ouais, je suis toujours dans l'air avec les généraux, décidément. On lui a dit, mais quel est le secret de votre ministère, mon général? Il a dit, moi-même, je ne suis pas une personne beaucoup intelligente, je n'ai pas une grande éducation. Ici à Londres, puisqu'il habite à Londres, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus de talent que moi, beaucoup plus d'érudition que moi, beaucoup plus de capacité que moi. Mais un jour, je lui ai dit, Seigneur, me voici, je me donne entièrement à toi, et si tu veux m'utiliser pour les taudis, pour les quartiers malfamés de Londres, pour ceux qui sont rejetés, je me donne entièrement pour toi et pour eux. À partir de maintenant, ma vie ne m'appartient pas. Et un homme qui apparemment était sans beaucoup d'instructions, sans beaucoup de formation, vous savez comme moi le travail extraordinaire qu'il a pu faire. Mes amis, Dieu ne regarde pas à vos titres ou à vos sous-titres. Dieu ne regarde pas à vos diplômes ou aux diplômes que vous n'avez pas. Ce n'est pas cela qui compte. Dieu regarde à ton cœur. As-tu décidé de dire « Je veux être une personne que Dieu m'utilise » accepté par les hommes ou rejeté par les hommes, je veux te suivre jusqu'à la mort. Nous sommes rachetés, cela veut dire que nous ne nous appartenons plus, mes chers amis. Votre vie appartient à Dieu. Et c'est alors, c'est quand nous nous donnons entièrement que nous sommes véritablement libres. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gardons ainsi ces quatre visions devant nous. Que le Seigneur nous donne de les remémorer en nous. Et que cela soit des vérités qui transforment notre être. Amen. les quatre visions de la victoire. Nous devons avoir un cœur reconnaissant. Nous sommes déjà délivrés de la main du diable. Nous sommes aimés, nous sommes bien aimés de Dieu. Et nous sommes la propriété de Dieu. Et lorsque nous sommes sa propriété, il peut nous utiliser. Et nous pouvons dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Amen. Et Dieu nous utilisera. Et avec rien, il peut faire beaucoup le Seigneur. Avec rien. Car il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Les choses qui ne sont rien pour confondre celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Oui, mes amis, afin que nulle chair ne se glorifie. Ô gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous donne ainsi de ne point résister à la vision céleste. Et que nous puissions monter dans cette fusée céleste et ne pas piquer du nez 15 jours après, mais partir et entraîner avec nous dans ce voyage extraordinaire des multitudes avec nous et les transporter des ténèbres dans son admirable lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons pour cette vision que tu as donnée à l'apôtre et que tu veux nous donner encore maintenant. Seigneur, nous sommes devant toi. Parle à nos cœurs. Que ces paroles tombent dans un terrain bien préparé et que nous puissions ainsi te glorifier pleinement dans nos vies. Merci Seigneur. Oh, nos cœurs t'aiment et t'adorent. Prends nos vies comme jamais Seigneur. Nous voici pour faire ta volonté et non la nôtre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Merci de ce que tu parles encore à nos cœurs maintenant. Nous sommes attentifs à ta voix, Seigneur.
Chante ton couleur. Des sœurs. C'était un mari et une femme qui s'étaient querellés. Et leur cœur était rempli d'amertume. Et pour cette raison-là aussi, elles avaient besoin de mettre leur vie en ordre.
Gloire à toi.
Elles avaient besoin de revenir au Seigneur.
Alléluia.
Elles avaient besoin que le Seigneur s'en occupe et ôte cette amertume.